Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On y est, on est samedi matin. Voici venue l'heure de votre magazine Nous voilà bien. Je vous espère en forme. Vous le savez, de 9h15 à 10h, on vous donne plein d'infos pour faire de vous des consommateurs toujours plus avisés et avertis. C'est parti pour le sommaire du jour.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Noël arrive à grands pas, et oui, déjà, même si la situation est un peu particulière, le Père Noël ne sera pas confiné les 24 et 25 décembre. Les cadeaux seront sous le sapin. Quelles sont les alternatives aux grandes enseignes étrangères du e-commerce? Armel Lévy, journaliste au service éco et conso de RTL et fidèle à cette émission, nous aide à protéger nos petits commerçants. On en a tous dans notre cuisine, mais sait-on vraiment ce qu'est le vinaigre et surtout comment l'utiliser? Il n'aura plus de secret pour vous grâce à la diététicienne nutritionniste Solveig Darrigaud d'Arti. Les Français en consomment en moyenne 18 par an. Le burger est-il forcément mauvais pour la santé? On se régale sans culpabiliser avec la cuisinière, auteure et journaliste Sonia Esculian.
Bonjour, bonjour mesdames, nous sommes vos vendeurs. Tout à vos corps et âme pour faire votre bonheur.
Bonjour, bonjour Armel Lévy.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous dans Nous voilà bien. Vous êtes journaliste au service éco et conso de RTL. Vous avez votre carte VIP dans cette émission et vous nous éclairez toujours de votre travail et de vos enquêtes. Alors, les grandes gagnantes de la crise du coronavirus, ce sont les célèbres multinationales de e-commerce, non?
Ah oui, c'est incontestable. En France, depuis le premier confinement, les achats en ligne ont bondi de 40%. Jusqu'à présent, on était sur une progression de 10% par an. Donc là, en une seule année, ça s'est accéléré, le e-commerce a gagné 4 ans en termes de développement. Mais en réalité, cette croissance profite surtout à une poignée d'entreprises qui détiennent une grande partie du commerce sur Internet. Alors je vais vous donner le classement, le top 10 actualisé. Aujourd'hui, un Français sur deux achète au moins une fois par an sur Amazon. Après, loin dernière, vous avez un Français sur quatre qui achète sur le site de la Fnac. Un sur cinq sur le site de Cdiscount. Et encore plus loin derrière, vous avez un Français sur dix qui achète sur les sites Vipi, Leclerc, La Redoute, Showroom Privé, Carrefour, Rakuten et sur le site du géant chinois AliExpress. Donc si on regarde bien, aujourd'hui, sans aucun doute, c'est Amazon qui se taille la part du lion. Le géant américain a triplé ses bénéfices au troisième trimestre. 6 milliards de dollars de bénéfices pour 96 milliards de chiffre d'affaires, juste pour le dernier trimestre. Donc tout le monde ne peut pas en dire autant. Donc aujourd'hui, la firme américaine numéro un mondial des ventes en ligne apparaît plus que jamais comme la grande gagnante de la crise sanitaire.
D'accord, mais en fait, ces plateformes, elles font beaucoup de tort au petit commerce. Ça, c'est une réalité.
Ah oui. D'abord parce que le principe même du commerce sur Internet, c'est de vous permettre d'avoir accès à toutes les offres disponibles dans le monde entier. Ce qui veut dire que nos commerçants locaux sont concurrencés par des entreprises situées à des dizaines de milliers de kilomètres de chez nous. Et quand je dis concurrencés, il faut bien comprendre que les commerçants locaux près de chez vous risquent de mettre la clé sous la porte dans les prochaines semaines.
Oui, alors c'est ce qui explique en fait que les appels au boycott se soient généralisés ces dernières semaines.
Oui, comme cette pétition Noël sans Amazon, en fait, quand vous voyez votre commerçant en bas de chez vous, obligé de fermer, qui ne peut pas payer son loyer, ni ses fournisseurs, qui se demandent comment il va faire pour tenir, et qu'à côté vous voyez un Amazon qui caracole en tête, ça cristallise les crispations. Mais le patron d'Amazon France s'est exprimé là-dessus. Il dit qu'il crée des emplois en France. Il revendique 9300 employés en CDI et 130 000 emplois induits en approvisionnement, construction, logistique. Amazon, c'est quand même aujourd'hui le premier client de la Poste avec les livraisons, et Amazon fait aussi vivre 11 300 petites et moyennes entreprises françaises qui vendent leurs produits à travers le monde grâce à Amazon. En réalité, le débat reste entier parce qu'il y a des enquêtes qui alertent. Selon les Amis de la Terre, le e-commerce a provoqué la destruction de 670 000 emplois aux États-Unis. Et pour Amazon, ils considèrent que le ratio, c'est 4,5 emplois détruits pour un emploi créé.
Bon, alors en même temps, ceux qui sont convaincus vont vous dire que ces plateformes, elles sont super pratiques, qu'on y trouve tout ou presque, parfois on est livré le jour même. Oui, c'est vrai, mais alors est-ce qu'on peut réussir à s'en passer aujourd'hui? Moi, je n'y ai pas recours.
Franchement,
on a tendance à vous dire que oui, mais...
Non, c'est compliqué, surtout cette année. C'est comme les grandes surfaces. Les petites boutiques sont fermées, on vous livre ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, à des prix compétitifs. Non, c'est évident que ça séduit. Pour autant, Flavie, il y a de l'espoir pour nos petits commerces. On est en train de vivre un tournant spectaculaire. Commerçants et artisans ont compris qu'eux aussi avaient une carte à jouer avec le e-commerce. Donc aujourd'hui, ils investissent dans le numérique pour se faire connaître.
Alors justement, ils s'y prennent comment? Parce que je parlais avec un commerçant justement en bas l'autre jour qui était en train de créer son propre site internet et qui s'employait en fait à transformer finalement son système de vente.
Alors, pour avoir de la visibilité, les commerçants communiquent, gardent le lien avec leurs clients et répondent aux commandes sur les réseaux sociaux ou par courrier électronique. Mais de là à faire un site, il est courageux. Votre commerçant, c'est beaucoup trop coûteux pour un petit magasin de vêtements indépendants, un libraire, une grande chaîne ou une grande marque. D'accord, elle peut le faire, concevoir un site, mettre en ligne le descriptif de tous les produits, proposer des solutions de paiement sécurisées, organiser la livraison, mais pas le petit artisan ou commerçant. Non, la vraie solution, c'est de se regrouper. Pas le choix pour lui, l'union fait la force. Alors pour bien comprendre, je vais vous raconter une histoire qui m'a marquée. C'est l'histoire bien réelle vécue par le président de la Fédération de la Chaussure, il est à Soissons. Il a été l'un des premiers en 1998 à créer son site internet. Il vendait quelques dizaines de paires par mois, mais un jour les Sarenza, Zalando sont arrivés et ne vendaient plus qu'une paire par mois. Pourquoi ? Parce que Flavie, quand vous cherchez un modèle de chaussure sur internet, le moteur de recherche vous renvoie en priorité vers les sites les plus connus, ceux qui enregistrent le plus de clics, et vers ceux qui payent aussi pour être référencés, donc pour apparaître tout de suite au-dessus de la page. Donc pour trouver mon petit marchand de chaussures indépendant, la démarche elle est inversée. Il n'apparaît pas dans mes choix. C'est à moi d'aller le chercher. Il n'arrive pas tout cuit. Et il suffit que je ne me souvienne plus de son nom. Alors là, donc c'est bien beau d'avoir un site, mais si vous n'avez pas de visiteurs, vous n'aurez pas de clients derrière.
Ouais, je comprends. En fait, vous nous dites qu'aujourd'hui, depuis le confinement, les commerçants s'organisent en réalité pour être plus visibles. C'est ça l'enjeu.
C'est ça. Et la manière la plus simple, c'est de rejoindre ce qu'on appelle une marketplace, une place de marché en français. C'est comme le marché du dimanche, sauf que c'est sur Internet et c'est ouvert 24 heures sur 24. En clair, ce sont plein de petits commerces qui vendent leurs marchandises sur un même site. C'est le fonctionnement d'Amazon qui propose toutes sortes de produits différents, des jouets, des vêtements, des produits de beauté. Pour adhérer et donc pour avoir le droit de vendre ses produits, le commerce sur Amazon, par exemple, paye un abonnement 39€ par mois et il lui reverse aussi des commissions 12 à 15% sur ses ventes. Le commerçant paye, mais au moins il est visible, il est sur un site qui génère du trafic.
Ah d'accord, mais on trouve des commerçants français sur les plateformes qui vendent de tout, mais c'est quand même pas la majorité. Il y a beaucoup de commerces étrangers.
Ah oui, c'est vrai. Mais il y a des places de marché qui clairement privilégient les fabricants ou producteurs français. Alors je vais vous citer par exemple maboutiquefrançaise.com ou le yakafrançais.fr ou rakuten.com ou mamipaulette.fr. Alors, comme le salon du Made in France n'a pas pu se tenir cet automne, l'équipe vient de créer aussi une grande plateforme de vente en ligne qui référence plus d'une centaine d'entreprises fabriquées en France et près de 900 produits pour faire ses cadeaux de Noël. Ça s'appelle mifexpo.fr comme Made in France. Mifexpo.fr. On a également DreamAct, une plateforme qui met en avant des petits créateurs français, mais qui est engagée sur les questions sociales et environnementales. On y trouve de tout, des jouets, des cosmétiques. Parce que c'est vrai, maintenant, il y a de nombreux sites qui mettent en avant des produits éthiques, bio, éco-responsables. Mmh. C'est-à-dire que ces produits sont conçus sans polluants, sans produits chimiques et à partir de matériaux durables. On a pandaplace.eco, lecab avec un k.fr ou cocotte.com. Donc vous trouvez de nombreux sites très spécialisés. Il en existe à peu près pour tout en fonction de ce que vous cherchez. Par exemple des fleurs, fleurdici.fr pour des bouquets, compositions florales, manomano.fr pour le bricolage et la jardinerie, modétique.com pour les vêtements.
Ah oui, donc on a quand même de quoi faire, quoi. On peut y aller. Vous êtes en train de me convaincre. Vous savez ce qu'on va faire? On va poursuivre notre conversation dans un instant, Armelle Lévy, car nous sommes ensemble, donc dans Nous voilà bien jusqu'à 10h. Ensuite, on parlera des vinaigres avec Solveig Darrigaud-Dartinet. Et Sonia Esgulian viendra nous convaincre que les burgers, ça n'est pas toujours de la junk food. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Merci d'être avec nous, Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h sur RTL et c'est truffé de conseils, conso, et on va parler cuisine aussi. Vous en avez forcément dans la vôtre, c'est du vinaigre, mais savez-vous qu'il en existe plein des vinaigres et que vous faire plein de choses avec. Et puis on parlera des burgers avec Sonia Esgulian qui nous donnera la bonne recette d'un bon burger qui n'a rien à voir avec la junk food. Mais pour l'heure, c'est Armelle Lévy qui nous parle.
Come on.
C'est le générique des reines du shopping sur M6, ma chère Armelle Lévy, car on parle du shopping avec vous aujourd'hui et les alternatives à Amazon et compagnie. Alors, on apprend que l'on peut faire plein de choses et être des consommateurs avertis et puis soutenir aussi nos petits commerçants qui sont dans une situation effectivement délicate. Il existe donc des alternatives aux géants du e-commerce, mais avec les sites que vous avez cités, on n'a pas l'assurance de faire vivre complètement les commerçants de notre ville ou de notre région, non ?
Oui, c'est vrai, vous avez raison Flavie, et c'est un point très important. Alors, pour tout ce qui concerne le commerce local, nous en sommes au balbutiement, mais depuis le premier confinement, face à la crainte de la population de voir disparaître ces petits commerces, pas mal d'initiatives locales se sont formées pour donner naissance à des sites de commerce locaux qui rassemblent des commerçants d'une même ville. C'est le cas notamment pour Alès dans le Gard avec alesofcourses.fr, il y a de l'humour, hein. Limoges avec shoppinglimoges.fr, Montpellier avec monquartier.shop, Angers avec angershopping.com, Évreux avec lesvitrinesd'Evreux.fr, Nice avec nice-eshopping.fr ou encore Chalon en Champagne avec covid19.touchalon.com. En réalité, devant l'urgence, il y a plein de villes qui ont décidé de passer par des intermédiaires. Wishibam ou Ma Ville Mon Shopping, c'est une filiale de La Poste pour offrir une vitrine digitale commune à tous ces commerçants. Ils ne restent plus tout seuls dans leur coin. Ils se fédèrent, épaulés par les pouvoirs publics. Les chambres de commerce aussi financent gratuitement un site pour les artisans locaux. Tous les vendeurs sont répertoriés par zone géographique. Le site s'appelle enbasdemaru.fr. Donc renseignez-vous parce que peut-être que vous aussi, dans votre ville, il existe une plateforme internet avec tous vos artisans et commerçants locaux.
Ah ben voilà, là ça va me convaincre justement de consommer de la sorte. Vous savez, je pensais aux livres aussi, hein, je vous en ai déjà parlé.
Moi, ah oui,
la fermeture
que vous
des libraires, ça m'a fait mal au cœur. Il y a des alternatives aux ogres du e-commerce concernant l'achat de livres.
Oui, déjà c'est une chance pour nos libraires. Depuis la loi Lang de 1980, les livres sont partout au même prix. Ils ne coûtent pas plus cher en librairie, c'est l'éditeur qui fixe le prix et non le libraire. Ouais. Donc que ce soit en grande surface, sur internet, au sein d'une chaîne et bien sûr en librairie, le prix est exactement le même. Coûte même plus cher sur internet s'il y a des frais de livraison. Donc, comme alternative, il y a des sites de librairies indépendantes qui se sont regroupés pour vous orienter, comme le site leslibraires.fr, un portail qui a vocation à vous aider à commander chez les libraires les plus proches de chez vous. Il y a également le site leslibrairiesindépendantes.com, créé par le syndicat de la librairie française, qui est le premier moteur de recherche de livres en France, avec près de 900 librairies référencées. Ou encore lalibrairie.com, créé par un groupement de près de 2500 libraires indépendants. Il y a le groupement par ville aussi, comme Paris Libraire. On envoie un mail le dimanche et le mardi, on va récupérer son livre dans la librairie la plus proche. Et un mot pour les amateurs de BD, il y a le site du label Canal BD Librairie, le premier réseau de librairies spécialisées dans l'univers de la bande dessinée, du manga, du comics et de la BD jeunesse qui regroupe des libraires indépendants francophones.
Bon, ça c'est une bonne chose. En fait, quand je vous écoute, je réalise vraiment que c'est notre rapport à la consommation et au sens qu'on lui donne qu'il est important de questionner.
Ah oui.
Il faut vraiment être engagé dans une forme de consommation quand on va sur ce genre dans ce genre d'endroit.
Disons que plutôt que de se concentrer sur les géants comme Amazon et de concentrer nos critiques sur ces mastodontes, d'en faire des boucs émissaires, la question c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on fait pour créer de la valeur en France. L'école de management de Grenoble a mis en place une chaire appelée Territoire et Transition, un projet de recherche, et ils observent déjà que quand il y a des politiques locales pour digitaliser les commerces, c'est une manière de les sauver. Les consommateurs voient vraiment où va leur argent, ils le tracent et voient bien que ça sert à quelque chose. Ils se disent qu'en faisant cet achat, il y a une histoire derrière, des vies, des hommes, des femmes à côté de chez eux. Donc c'est une manière de les faire vivre, de préserver les emplois et de revitaliser nos centres-villes.
En tout cas, ça bouge et on l'entend. Et je vous remercie de nous avoir vraiment éclairé de cette enquête passionnante. Merci beaucoup, Armelle Lévy, d'avoir été avec nous en ce samedi matin. Prenez bien soin de vous. On se retrouve prochainement, de toute façon, dans Nous
plaisir,
Voilà Bien. Je vous embrasse.
Ça ne va pas tourner
Armelle
au vinaigre.
Non. Et d'ailleurs, vous en consommez beaucoup du vinaigre, vous ?
Ah oui, moi j'aime bien le vinaigre de noix.
Ah, et bien justement, on va en parler parce que les vinaigres, c'est assez mystérieux pour certains. Il en existe plein et on peut faire plein de choses avec. Et c'est Solveig Darrigaud-Artinet qui nous rejoint. Je vous embrasse, Armelle Lévy. Merci
moi
à vous.
Aussi.
Vinaigre blanc pour la semaine, c'est ce qu'il y a de moins calorique. Et on se lâche le week-end en s'ouvrant un petit balsamique.
On va se faire un petit balsamique à 10h du matin. Bonjour, Solveig Darrigaud-Artinet.
Bonjour, Flavie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Le vinaigre, c'est quoi ? C'est du vin aigre, comme me disait ma grand-mère ?
Tout à fait, c'est un aliment fermenté et même doublement fermenté, puisqu'il y a déjà la première transformation entre le fruit, par exemple du raisin, de la pomme et même du riz en alcool. Donc ça c'est la première fermentation. Et ensuite il y a une deuxième fermentation qui va transformer cet alcool en acide acétique, et ce qui lui donne justement ce petit goût acide, mais qui à l'origine servait à conserver les aliments, hein, tout bonnement.
Oui, donc ça n'était pas utilisé pour la cuisine réellement, c'était un produit de conservation.
Voilà, c'était une façon de conserver, on mettait les fruits, on mettait de l'alcool et après on pouvait justement s'en servir, mais on a vu qu'on pouvait s'en servir pas que au plan médicinal, parce qu'au départ on se disait ça va faire du bien pour moult symptômes, et après on l'a consommé dans les recettes.
C'est dingue parce que moi j'ai toujours essayé de faire du vinaigre et je n'y suis jamais parvenue.
Ça prend un peu de temps, il faut plusieurs semaines, il faut que ce soit à température ambiante, il faut laisser reposer, il faut que la mer remonte à la surface, hein, cette petite nappe de brouillard.
Ça prend du temps et puis c'est je ne sais pas, moi j'ai toujours, le vinaigrier était là, la mer donc, qui effectivement est cette sorte de matière un peu gélatineuse, hein, qui permet de faire du vinaigre, était là et c'était pourri de chez pourri. Et en fait, l'idée, c'est de vider ces bouteilles, hein, des bouteilles de vin, et justement de ne pas
jeter le vin non consommé.
Voilà.
Voilà, alors soit on fait à partir directement de fruits, on pourra d'ailleurs donner la recette si vous voulez, mais on peut partir de fruits, donc de pommes par exemple, et puis de sucre. Donc si la pomme est très acide, il faudra rajouter plus de sucre. Et puis on va faire cette première transformation qui est le cidre maison, et ensuite faire la deuxième transformation. Donc c'est vrai que ça va prendre 4-5 semaines, et puis sinon on peut effectivement le partir directement, certains partent de la bière, on peut partir de certains vins rouges, un blanc, il y a toutes les variétés possibles.
Vous parliez justement des vertus médicinales du vinaigre. Ça fait partie d'ailleurs des recettes de grand-mère. Hein. Moi, je me souviens quand j'avais des piqûres de moustiques ou de bestioles, ma grand-mère me donnait toujours du vinaigre de cidre en me disant « tu vas voir, ça va te soulager ». C'était une réalité. On connaît le vinaigre blanc qui a des vertus nettoyantes.
En fait, le vinaigre de vin blanc est justement beaucoup plus acide que les autres. Donc, c'est plus caustique. Donc, effectivement, voilà. Ça nettoie, ça récure. Et c'est pour ça qu'on l'utilise. Alors que les autres sont un petit peu moins acides, le pourcentage est un peu moins élevé.
Voilà, et en plus de ça, c'est effectivement une façon de récurer sa cuisine ou son intérieur d'une façon donc écologique. On va se retrouver dans un instant, car on va justement parler de tous les autres vinaigres, de vin, de cidre, le balsamique, celui de framboise aussi. Il en existe plein de variétés et vous allez nous aider à y voir plus clair. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Solveig Darrigaud-Dartinet va nous rejoindre dans un instant pour nous parler du vinaigre. Et ensuite, Sonia Esguillon nous parlera des burgers. Solveig Darrigaud-Dartinet, le nombre de vinaigres que l'on peut avoir dans sa cuisine, c'est absolument dingue. En fait, il y a autant de vinaigres, je dirais qu'il y a de liquide un peu alcoolisé, quoi.
Complètement. Et c'est génial parce que ça permet de faire plein de recettes variées. Mais il y a également toutes les qualités de vinaigre. Donc, il n'y a pas tout. Tout n'est pas forcément génial.
Alors, vinaigre de vin, de cidre, le vinaigre balsamique, le vinaigre de framboise, le vinaigre de noix. Comment bien choisir le vinaigre?
Alors, la grande vedette, ça reste quand même le vinaigre de cidre pour diverses vertus. Hein. C'est sans doute le plus intéressant pour notre santé, pour notre microbiote, parce qu'il vient nourrir notre flore intestinale, hein, ce qu'on appelle le microbiote aujourd'hui. Bien. Alors, à ce moment-là, il vaut mieux le choisir bio et non pasteurisé, parce que les trois quarts des vinaigres, pour une conservation plus longue, les vinaigriers, les industriels, le pasteurisent, hein, comme beaucoup de produits. Alors, donc, si on en trouve de préférence bio, non pasteurisé, là c'est le top du top. Ensuite, il faut faire surtout attention dans la liste des ingrédients à ne pas voir le chiffre barbare E150D. Donc E150D, c'est du caramel de sulfite d'ammonium. Et là, c'est pas bon du tout. C'est aussi ce qu'on retrouve dans les fameux sodas cola. On le retrouve aussi dans certains produits d'industrie agroalimentaire, les céréales, petit déjeuner, etc. C'est un espèce de caramel. voilà, mais c'est pas dans les bons vinaigres. Donc on évite quand on voit ça sur cette liste, et malheureusement on en trouve quand même beaucoup dans des marques très connues, donc bah, ça on évite.
D'accord, E150D, c'est noté. Voilà. Est-ce qu'on privilégie forcément le Made in France?
Disons qu'à l'origine, les meilleurs vinaigres les plus cotés ne sont pas Made in France. C'est par exemple le vinaigre de Xérès en Espagne ou le vinaigre balsamique de Modène en Italie. Donc c'est vrai que c'est eux qui ont la plus grosse cote sur le marché, c'est vraiment les plus chers. Maintenant, Made in France, en vinaigre de cidre, justement bio, non pasteurisé, on en trouve quand même beaucoup sur la région Bretagne-Normandie. Hein.
Bon, est-ce qu'il a des propriétés nutritionnelles particulières, le vinaigre? Parce qu'en fait...
Alors, le vinaigre, il est intéressant parce que, justement, il contient pas mal de sels minéraux. Il contient notamment du potassium qui gère notre équilibre acido-basique, hein, parce qu'on a tendance à manger un peu trop, justement, d'aliments qui sont acidifiants. Parce que même s'il est acide, il n'est pas acidifiant pour l'organisme. Donc, en fait, il est très intéressant, comme beaucoup d'aliments qui contiennent des sels minéraux, comme les végétaux, hein, qui sont à l'origine, justement, de sa fabrication. Il contient des vitamines, des antioxydants, des enzymes.
Ah oui, donc on peut y aller, quoi.
Ah oui, c'est quand même super intéressant.
Mais est-ce que
c'est un aliment de consommation courante, en tout cas.
Mais ça semble très acide.
C'est 4 à 6% environ un vinaigre classique. Et puis celui dont on parlait, le vinaigre blanc pour nettoyer, c'est plutôt 8%. Donc là, c'est pour ça qu'on ne le mange pas. C'est pas alimentaire, hein, on évite. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait son charme, hein, la petite acidité.
Mais du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications à consommer du vinaigre?
Alors oui, tous les troubles digestifs, notamment quand on a des gastrites, des ulcères à l'estomac. En revanche, c'est assez étonnant, mais les reflux gastro-œsophagiens, vous savez, quand on est remonté acide après le repas, par exemple, eh bien, ça va dépendre des personnes. Et puis certaines se soignent même avec du vinaigre de cidre. Donc allez savoir. En tout cas, c'est pas forcément, c'est pas forcément que négatif non plus. Et puis comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi nourrissant pour notre microbiote. Donc il y en a même qui se font leur petite cuillère le matin, un peu comme l'huile de foie de morue, qui se prennent leur petite cuillerée de vinaigre de cidre le matin pour bien calmer toute la paroi intestinale. Donc voilà, pourquoi pas.
Non, mais c'est un bon conseil, c'est effectivement, donc c'est une réalité, c'est ce que l'on dit aussi parfois, et je ne savais pas si c'était vrai. Donc on peut se faire sa petite... Alors c'est pas terrible.
Hein, oui, à partir du moment où on est sur du bon, comme on a dit.
Voilà, exactement. Et qu'il n'y a pas du E150D. Est-ce qu'il existe des alternatives au vinaigre pour ceux qui ne peuvent pas le supporter?
Le jus de citron, hein, tout simplement. Alors des fois dans les vinaigrettes, c'est un peu ce qu'on utilise. Il y a les agrumes, hein, tout simplement. Voilà, du pamplemousse, du pomelot, de l'orange, des clémentines en ce moment. C'est vrai que ça peut rehausser une petite vinaigrette, donc ça peut être sympathique aussi. Hein.
Très bien. Et ça sert seulement à faire des vinaigrettes, le vinaigre? On parlait du vinaigre blanc. Bon, moi, je fais tout mon ménage avec du vinaigre blanc, mais sinon, ça pue. Hein. Il faut aérer un peu quand même. Mais au moins, il n'y a pas de produit dangereux. Et c'est moins cher, il faut quand même bien le préciser aussi.
Hein. Pas que la vinaigrette. Bon, alors déjà, ça permet de diversifier les vinaigrettes, mais on peut l'utiliser aussi, alors là, c'est pas trop la saison, mais pour faire des gazpachos, c'est vrai que le vinaigre de Xérès, c'est quand même le top avec la tomate, les poivrons, etc. On s'en sert aussi pour déglacer une viande ou une volaille, le vinaigre balsamique.
Eh bien, on va parler justement de cuisine dans un instant avec Sonia Esgulian qui va nous rejoindre. Je vous remercie, Solveig Darrigaud-Dartinet, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Je rappelle que vous êtes donc diététicienne et nutritionniste. Votre site, c'est cuisine3s.fr et votre ouvrage Goûter sain et naturel, on le retrouve aux éditions Rustica. Je vous embrasse. À la prochaine, Solveig.
Bon week-end. Au revoir.
Merci. Au revoir.
En léger différé, du studio on enregistre et pour la troisième fois en France, c'est Burger Quiz.
On adore Burger Quiz ici. Bonjour Sonia Esgulian.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cuisinière, auteure et journaliste. Tiens, vous écoutiez Solveig Darrigaud-Dartinet nous parler du vinaigre. J'imagine que vous avez forcément quelque chose à nous apprendre sur le vinaigre ou une petite astuce.
Moi j'adore les vinaigres gastronomiques, les bons vinaigres. Par exemple, il y en a un que je peux conseiller, c'est le vinaigre de Pinot des Charentes de Françoise Fleurier, qui est un vinaigre extrêmement aromatique. Et comme Solveig le précisait, je m'en sers énormément pour déglacer en fait la poêle ou la cocotte quand on a fait cuire une viande, parce que là, ça va en fait permettre de décoller les sucres et de faire un petit jus qui a vraiment une légère acidité, et ça fait toute la différence.
Au Pinot des Charentes, oui, bon, c'est bien ce que je disais en fait, hein. Il y a autant de vinaigre qu'il peut y avoir d'alcool, quoi. C'est
je
génial.
Pense que c'est infini.
Bon, bah écoutez, on fera une spéciale cuisine au vinaigre avec vous dans quelques semaines. Mais pour l'heure, on voulait parler du burger. C'est fou parce que un vrai bon burger, c'est super. Mais moi, je n'en mange jamais parce que je refuse la junk food. Pourquoi est-ce que les burgers des fast food ont un tel succès? On va pas se mentir. Parfois, moi, je propose d'en faire un à mes enfants et ils ont une tendance à vouloir aller dans un fast-food. Why?
Alors, je ne fréquente pas beaucoup les burgers des fast-food parce que pour moi, c'est... Alors, il n'y a pas assez d'ingrédients, on va dire, assez gourmands. Je ne suis pas une grande amatrice de fromage fondu, donc c'est un peu... C'est toujours un petit peu trop... Un peu too much pour moi.
On dit qu'ils mettent des trucs addictifs, quoi.
Certainement. Après, c'est l'habitude. C'est vrai que si on s'habitue à un goût, forcément, on revient vers ce goût. Il y a plein d'autres aliments dans l'agroalimentaire qu'on connaît. Alors pour moi, burger ne signifie pas forcément junk food parce que très souvent, un burger maison, alors évidemment très gourmand, hein, c'est pas un burger diététique qui peut tout à fait plaire aux enfants en fait. Hein, c'est un vrai burger pour tout le monde à la maison. Ça peut être vraiment quelque chose à la fois équilibré et aussi très surprenant au niveau du goût.
Eh bien, c'est ce que vous allez faire dans un instant. Vous allez nous surprendre et nous donner envie et nous convaincre de manger des burgers ce week-end. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h. Le temps d'écouter Sonia Esgulian nous donner la recette d'un bon burger. Mais oui, mais fait par Sonia Esgulian, parce que vous allez effectivement nous expliquer que le burger, ce n'est pas forcément de la junk food, Sonia Esgulian. Il était temps qu'on vous entende sur le sujet.
Bah oui, bah franchement, alors d'abord, il y a burger et burger. Alors, on n'est pas obligé de tout faire, mais il faut quand même fabriquer certaines choses pour que le burger soit différent. Alors, burger, c'est d'abord un pain. Alors, est-ce qu'on le fait maison? Ça prend un petit peu de temps, mais il y a des recettes assez faciles de burger maison, de ces pains très très moelleux. Après, aujourd'hui, dans de nombreuses boulangeries, on va trouver des super bons burgers artisanaux. Et ça vaut le coup, de temps en temps, moi ça m'arrive régulièrement, d'acheter des petits pains à burger dans une boulangerie là pas loin de la maison qui s'appelle Antoinette, qui est top.
Ce que j'entends, c'est que ça tient vraiment aux ingrédients, à la qualité des ingrédients, donc évidemment ça commence par le pain. Ensuite,
il y a la viande. Alors ça, c'est très très important. On peut faire des burgers à tout ce qu'on veut. Hein. D'ailleurs, on peut le faire au bœuf. Moi, il m'arrive de le faire également avec du poulet, du filet de volaille haché. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une viande très très goûteuse. Et très souvent, j'ai une idée depuis quelques années pour rendre la viande très moelleuse et très goûteuse. Je vais en fait l'aromatiser. Je vous explique, c'est très très simple. Dans un saladier, je prends mes steaks, donc je prends à peu près l'équivalent d'un steak par personne, donc de viande hachée par exemple, de bœuf, et je vais ajouter des petites échalotes, pardon, j'arrive plus à parler, ciselées que j'ai fait sauter avec des champignons de Paris coupés en tout petits dés. J'ai ajouté également un petit peu d'herbe, alors on peut mettre de la coriandre ou de l'estragon ou du persil plat. On peut ajouter des petits dés de tomates quand c'est la saison. On peut ajouter du céleri branche coupé en tout petits dés également. On mélange tout ça. Donc ça va faire un steak qui va être un tout petit peu plus gros, mais beaucoup plus moelleux, beaucoup plus tendre. Et là, vous imaginez tous les parfums de ces ingrédients que j'ai mis. Donc je reconstitue en fait un steak. Alors soit on a un petit cercle à pâtisserie, soit on le fait en le façonnant avec la main à peu près. Hein. Et là, d'un coup, ça va être non seulement plus facile à le cuire à la bonne température, parce qu'en fait, on va bien laisser le steak à température ambiante pendant au moins une heure. On ne met pas trop froid dans la poêle et on va le faire bien griller de chaque côté pour le mettre dans le pain. Après, dans le pain, il reste des éléments qu'on va ajouter. Alors là, c'est comme on a envie. Dans la mesure du possible, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des éléments qui ont également été poêlés, comme des tranches d'oignons, des tranches un petit peu épaisses d'oignons violets, qui est un oignon beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré. On peut ajouter En ce moment, il y a des légumes, donc évidemment, on peut ajouter, pourquoi pas, un tout petit peu de potimarron. C'est très très bon, le potimarron, c'est très fondant.
C'est une super idée.
Et on peut ajouter, évidemment, un fromage. Alors, moi, je n'aime pas du tout l'espèce de fromage qui fond et qui a une drôle de texture. Tant qu'à faire, si on met un fromage, autant mettre un bon fromage qui a du goût, et puis un fromage de terroir, par exemple, comme, pourquoi pas, de la fourme de Montbrison, parce que ça, c'est un fromage de caractère. On peut mettre du comté, on peut mettre, en fait, un fromage qu'on aime bien dans ce burger. Et on aura fait, donc, préchauffer les pains. Alors, soit ce sont des pains à burger et on peut simplement les couper en deux et les faire également un tout petit peu réchauffé à la poêle sans matière grasse, ou alors on les met au four, hein, tout comme les bagels, on les coupe en deux et on les met au four pour les réchauffer un petit peu. Après, c'est de l'assemblage, on va mettre tous les éléments, donc un pain, les oignons, si on veut on peut mettre quelques feuilles de salade, le steak, le fromage, et on referme avec le deuxième morceau de pain. Là, la chaleur va faire son petit effet et on peut commencer à déguster notre burger.
Oh là 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 là, et évidemment, pas avec un soda du supermarché.
Alors après, ce qui fait l'équilibre, parce que souvent le burger, il a mauvaise presse, mais c'est parce que c'est tout ce qui va avec. On n'est pas obligé de manger une tonne de frites très grasses et une montagne de ketchup ou de mayonnaise. D'abord, on mange systématiquement un bon petit bol de salade verte avec un burger. Je pense que ça équilibre les choses. Et puis les frites, évidemment, on se fait plaisir. On peut manger des frites, mais avec modération. Alors, soit des frites de pommes de terre. Moi, je fais souvent des frites avec du céleri rave. Donc, je les coupe façon frites. Je les précuis 2 minutes dans de l'eau bouillante salée. Ensuite, je les mets sur une plaque au four. Alors, j'ai une petite astuce, c'est que je mets un petit peu de zeste d'orange et un tout petit peu de piment et de fleur de sel sur les frites. C'est très, très bon. Mais voilà, on peut changer les frites. On peut en faire avec plein d'autres légumes d'hiver. Les légumes racines se prêtent tout à fait aux frites. Donc, changeons aussi, mangeons des légumes avec le burger, c'est délicieux. Et puis surtout, on trouve des alternatives à certaines sauces très sucrées, comme le ketchup industriel. Moi, j'ai depuis quelques années une sauce que je fais en quelques minutes. Je prends de la mangue. Alors, on a de la mangue fraîche, bien mûre. Ça, c'est toujours très dur à trouver, mais bon, admettons. Ou alors, de la mangue surgelée. On en trouve très facilement chez Picard. On la mixe. En fait, on va mixer environ 350 grammes de mangue avec 2 cuillerées à soupe bien épaisse de moutarde Savora. C'est une moutarde qui est très aromatique. Oui. Je mets un tout petit peu de curry, fort ou pas fort, selon si c'est destiné à des enfants ou pas. Je mixe le tout et là, ça fait une sauce hyper punchy, rigolote comme tout avec les frites et pas du tout aussi nocive, entre guillemets, que certaines sauces très sucrées ou très grasses.
Eh bien, moi, je sais ce qu'on va faire, Sonia. On va tous venir chez vous.
Mais j'ouvre mon enseigne.
Mais s'il vous plaît, mais vous devriez, Sonia Esgulian, parce que je vous assure qu'il y aurait la queue devant chez vous.
Bon, ben je vais investir dans un S jaune clignotant.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sonia, de nous avoir donné envie, comme à chaque fois que vous arrivez dans cette émission. Voilà, c'est tout à coup, on a les papilles
qui s'excitent. C'est un plaisir. Voilà
je vous embrasse super fort. Je rappelle que vous avez une page Instagram à votre nom et qu'on y trouve justement plein de recettes et plein de conseils. C'est vraiment génial. Je vous fais plein de gros baisers, mais non, même pas des baisers. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point en ce moment on a tous envie de se faire des bisous, quoi. Hein, bon, ce sera pour 2021, mais bon,
plein
on y croit.
Oui,
merci en tout cas, Sonia Esgulian. Merci à vous tous d'être au rendez-vous chaque samedi matin. Merci pour votre fidélité. Retrouvez tous les conseils de nos invités en replay sur RTL.fr ou en podcast sur les plateformes dédiées. Et la recette dès maintenant, donc, sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour On est fait pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et la semaine prochaine, 9h15, dans Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.